Mais c'est une question intéressante parce qu'on touche aussi au prix de toutes les denrées alimentaires, tout ce qui vient du monde paysan, en fait. Tous les prix sont sous-évalués ou ils sont artificiellement bas parce que ils reposent sur des méthodes de travail, de production qui sont pas durables, en fait. Et où on utilise beaucoup d'intrants qui polluent la terre, on utilise beaucoup de pétrole aussi parce qu'on mécanise tout.
Donc là où on revient à la coopérative, la force, c'est les coopérateurs et toutes ces mains multiples qui viennent aider au long de l'année, qui nous permettent justement de sortir un petit peu de des dépendances mécaniques ou de techniques peu moins vertueuses.
La ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût. Oui, je le sais, la pause a été longue, très longue. Attiré loin des carottes et des plants de culture, j'ai dû abandonner pour un temps la réalisation de ces chers podcasts. Mais voilà enfin un nouvel épisode. Celui-ci nous permet de partir à la rencontre de Yann et Denis, jardiniers émérites de la Clé des Champs. Voilà plus de 40 ans que la Clé nourrit des centaines de personnes chaque semaine, en ayant su s'adapter pour passer de l'agriculture bio-traditionnelle à une logique permacole ou agroécologique. J'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec eux de tous les sujets qui traversent les défis du micro-maraîchage, de la motivation des abonnés et abonnées jusqu'à la production de plantons. Et une discussion passionnante également sur le niveau de salaire juste et le prix juste qui donne de quoi réfléchir. Alors, détendez-vous et partons à la rencontre de Yann et Denis. On est aujourd'hui à la Clé des Champs, à Courgenay, dans le Jura. Ça a pris un petit moment de venir ici depuis Aubonne. C'est quand même bien 3 heures de trajet. J'ai traversé des endroits que je connaissais pas en train. Et je suis avec Denis et Yann. On est bien d'accord. Je me suis pas trompé sur le prénom. Ouais. Qui sont les deux jardiniers de ce projet, qui est un des plus vieux. Je relisais mes notes puisque j'étais déjà là l'année passée. On a à peu près le même âge avec le projet. Je crois qu'il est de 82, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ben voilà. On est né à peu près en même temps avec la Clé des Champs. Donc voilà, on a une petite heure devant nous, on va faire un peu le tour de quel est ce projet, quelles sont ses spécificités. Est-ce que vous avez qui a envie de raconter un petit peu l'historique de la Clé des Champs?
J'ai déjà fait ce matin, donc...
Ouais. Bon, bah, je vais raconter alors un petit peu cette historique. Quoi. Donc effectivement, la Clé des Champs est née en 82, donc on fête ses 40 ans cette année. Donc on a prévu une grosse fête, justement, avec un petit marché paysan, avec tous les collègues et amis de la Clé avec qui on travaille, avec qui on participe quoi, à différentes tâches, qu'elles soient agricoles ou autres. Et donc c'est né en 82, c'est Hans-Jörg Ernst qui l'a créé avec cette volonté de créer une coopérative avec ce côté très participatif où les coopérateurs participent en fin de compte au travail du jardin, ce qui est essentiel en fait pour accompagner aussi les deux jardiniers, parce que sans ces coopérateurs, vu les techniques agronomiques qu'on utilise, très peu mécanisées, on a besoin de beaucoup de bras. Donc le projet, en fin de compte, tourne vraiment sur cette vie coopérative, en fait. Donc au départ, Hans-Jörg a pratiqué l'agriculture biologique, celle des débuts, quoi, donc avec des techniques agronomiques qui ressemblent à l'agriculture habituelle et... Depuis quelques années maintenant, on a fait une transition vers la permaculture, donc vers le non-travail du sol, un projet agroforestier également, arborer les lieux, enfin redonner un côté un petit peu plus sauvage et puis en même temps accompagner la biodiversité au jardin qui peut être une aide directe pour nos cultures.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici et qu'il y a eu cette transition entre quelque part en sûr qui était le premier pionnier de ce projet-là et puis... la génération d'après?
Bah, Denis est arrivé
il y a 6 ans,
c'était la sixième saison.
Ouais.
Et moi, c'est ma cinquième saison, donc je suis arrivé l'année après Denis pour remplacer Céline, qui était aussi la collègue à Hans-Jörg,
okay.
Qui après a été la collègue à Denis, et puis voilà.
Ah, donc un projet en fait qui a 40 ans, mais on en est qu'à sa deuxième génération quelque part de jardinier, jardinière.
Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Hans-Jörg l'a vraiment porté jusqu'au bout,
Jusqu'à sa retraite.
Jusqu'à sa retraite.
Excellent. Et tu disais, ben voilà, il y a vraiment besoin d'avoir des mains, des bénévoles qui viennent. Toi, t'expliquais ce matin, c'est presque la moitié du temps de travail, c'est juste?
Même au-delà, ouais.
Même au-delà. Ouais.
Mmh. Ok.
Notre travail à nous, les deux jardiniers, ça représente environ un tiers.
Un tiers.
Du travail, des heures accomplies pour la Clé des Champs. Ouais.
Ouais. Il faut penser qu'on a quand même 220 coopérateurs. Donc, en fin de compte, ça fait un nombre d'heures assez importante, en fait, cette participation. D'où sa dépendance, en fait, aux coopérateurs.
Ouais. Donc, on n'est pas sur de l'anecdotique, je viens de juste donner un peu comme ça de manière symbolique du temps. Ça, vraiment, ça fait partie du modèle.
Ouais. Okay. Après, il y a encore les stagiaires et les bénévoles.
Et les apprentis.
Voilà, plus l'apprenti encore. Ça fait encore plein d'autres personnes qui donnent beaucoup d'heures pour la Clé des Champs. Ouais, ça fait partie aussi de l'ADN de la Clé des Champs, je trouve aussi cette ouverture. On a toujours été intéressés, je dirais, puis ouverts à ce que des personnes qui sont peut-être en marge de la société, qui sont peut-être dans une césure, qui ont besoin de voir autre chose. On a toujours été intéressés et ouverts à accueillir ces personnes et à leur offrir un espace parmi nous.
Y compris pour venir travailler, pour venir être impliqué
du travail. Il y a un échange aussi autour de ça. On travaille, puis on partage des moments. Il y a aussi les pauses qui sont importantes, la pause café. On mange toujours avec les gens qu'on accueille au jardin, on leur offre leur repas. Et voilà, c'est tout un aspect social aussi qui nous est cher, je dirais.
Et ça resocialise un petit peu les gens, ça donne du rythme, ça permet qu'ils sortent en fin de compte de leur quotidien, puis de rencontrer un espace un petit peu plus vivant, on va dire, quoi.
Ok, et vous, ça c'est quelque chose qui vous a attiré aussi dans le fait de venir travailler ici? Vous le saviez, vous avez aussi une âme de travailleurs sociaux, une envie d'être dans la relation, ou c'est... Comment vous positionnez par rapport à ça?
Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Moi qui ai travaillé seul pendant pratiquement 15 ans, moi, il a vraiment fallu que je m'adapte à l'accompagnement, en fait. J'ai tendance à être un petit peu l'électron libre, en fait, plutôt... Je donne des tâches, et puis moi, je vais un peu, toujours, assez souvent travailler seul, en fait, parce que
C'est aussi des parcours et des profils. Maraîcher, c'est pas à travers social, enfin, c'est autre chose, ou c'est pas organisateur d'événements, ou.
Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, après, ça s'apprend, hein. Ouais. Comme dit, au départ, j'étais très sauvage. Maintenant, je le suis, j'espère, un petit peu moins, quand même. Et on va dire que Denis porte plus facilement ce côté-là.
Ouais, après, c'est vrai, c'est pas automatique. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie parce que je trouve sympa de pouvoir accueillir les gens comme ils sont, puis de pouvoir faire quelque chose avec eux, avec leur points forts, puis leurs points faibles. Et puis, on construit un peu quelque chose ensemble. Et puis, les gens, tu sens que ça les valorise, qu'ils en tirent quelque chose, quoi. Pas seulement un avantage pour nous.
Ouais. Ouais, puis il y a tout le côté aussi, justement, dans le côté participatif, la transmission des jardiniers. Les gens ont quand même un intérêt par rapport à ce qu'on fait. On nous pose beaucoup de questions. Donc, nous, notre rôle, c'est aussi, du coup, de faire de l'éducation écologique. Vu les transitions qu'il y a à mener, ce genre de choses, en fin de compte, on est quand même bien placé pour expliquer ce qui se passe. Quoi. La météo, on la vit en direct tous les jours. Donc, on sent vraiment ce changement, quoi. Ça fait 25 ans que je fais de l'agriculture. Il y a une époque, on pouvait suivre les proverbes paysans. Et depuis environ, je dirais 2012, par là, 2011, tous ces proverbes n'existent plus. En fin de compte, on ne peut plus les suivre. Alors que c'était vraiment la transmission orale, comme un calendrier en fait, annuel des travaux à faire, qui était même assez pratique et amusant à suivre. Et cette tradition orale, en fait, qu'on n'a plus... La plus vocation d'être, quoi. C'est
le changement. Tu le vois vraiment au niveau de la variabilité, de l'imprévisibilité du climat.
Pendant des années où j'ai bossé dans l'agriculture, j'ai senti dans la saisonnalité des choses normales. Okay. En fait, des pluies à des moments bien précis que tu pouvais attendre et qui venaient, tout simplement, quoi. Et ce rythme a été cassé, quoi, clairement.
Et dans l'intérêt des personnes que vous rencontrez, vous avez vu un changement aussi ces dernières années? Vous avez vu des choses qui évoluaient par rapport à cette curiosité ou le fait que les gens s'intéressent plus à ces questions-là? Ou comment vous avez vu ça?
On peut dire quand même, moi je l'ai vu peut-être plus que Torian, parce que c'était pas encore là que je suis arrivé. du moment où on a commencé vraiment à s'engager sérieusement dans une transition vers la permaculture, on a eu plus de monde.
Ok.
Clairement. Surtout des jeunes qui cherchaient leur voie, qui s'intéressaient à l'agriculture et tout. Et ouais. Après, on a quand même beaucoup de gens. Les gens, s'ils viennent à la clé, c'est aussi parce qu'ils ont besoin d'être en contact avec la terre. Ça, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort dans la société, je pense, maintenant. Après, c'est comme s'il y avait deux choses différentes. Il y a cette frange de la population qui veut retourner vers la terre, vers des activités qui font sens pour eux. Mais d'un autre côté, on voit chez nos coopérateurs, il y a des gens qui veulent consommer local, qui veulent consommer peut-être bio, mais ils n'ont pas vraiment envie de s'investir dans les projets, quoi. Et donc on a beaucoup de gens qui nous approchent comme bénévoles, comme stagiaires, parce que ça les intéresse ce qu'on fait. Puis dans les coopérateurs, on a des gens de moins en moins engagés, malheureusement.
Ok, vous voyez ça, qu'il y a un engagement quelque part philosophique. J'ai envie de manger mes légumes bio, par contre, mettre les mains dans la terre et travailler, ça diminue.
Mais en fait, c'est une question qu'on se pose maintenant depuis 2-3 ans. Il y a eu cette période Covid où d'un coup, les gens étaient quand même assez présents. Et là, cette année, on a normalement des règles, vu qu'on est une coopérative, on est très libre, mais on a quand même imposé des règles un peu tacites, quoi, notamment de faire la moitié de 16 heures avant la fin juin. Et là, on avait pratiquement un tiers de nos coopérateurs qui n'avaient même pas encore fait une seule heure au terme de la règle.
Okay.
Donc, il a fallu qu'on fasse des rappels. Là, on a remarqué que c'était souvent les plus anciens de la clé qui ont entendu l'appel tout de suite, mais c'est des gens qui avaient déjà fait une partie de leurs heures, alors que on dira les plus jeunes... On a un petit peu plus du mal à leur faire comprendre le côté participatif des choses, en fait. Donc, alors, est-ce que c'est l'après-Covid et qu'il y a comme un temps de latence parce que les gens n'ont pas pu partir ou étaient très bloqués dans leur mouvement et que d'un coup, là, ça s'ouvre, hop, on part. Et puis peut-être que l'année prochaine, on aura à nouveau un rythme à peu près normal, mais ça, on ne sait pas trop. En fin de compte, la sociologie, c'est encore notre domaine. Quoi.
C'est ça. Ouais. Mais de se rendre compte aussi, ouais, peut-être qu'à l'imprévisibilité climatique, il y a aussi une imprévisibilité sociale qui s'est rajoutée avec cette période Covid, oui, non. Moi, j'ai l'impression de sentir ça aussi, qu'effectivement, il y avait un engouement pour le local, les paniers de légumes, les épiceries en vrac, tout ça. Et dans tout ce qu'on voit maintenant, on voit que l'année, là, un peu de libération, quelque part, post-Covid. Tout le monde est reparti à la COP, à la Migros, ouais. Et puis avec EasyJet dans les Baléares.
Oui,
et
clairement.
Et c'est assez fascinant de voir ça, de se dire, OK, on avait l'impression que c'était la révélation, l'écologie, c'est génial. Regardez, on entend les oiseaux, il n'y a plus les avions, la vie est belle. Et en fait, dès qu'on réouvre les portes, c'est
compliqué. On retourne
compliqué.
À son quotidien.
Son quotidien
ouais. C'est tout à fait ça, quoi. Mais il y a quand même, moi j'ai trouvé pendant cette période Covid une chose intéressante, c'est qu'on a commencé la vente de plantons avant le Covid, où là on avait vraiment des jardiniers qui ont l'habitude, qui avaient des jardins, etc. Et pendant le Covid, les gens étaient bloqués chez eux, il y en a plein qui ont créé des jardins et qui reviennent maintenant chez des plantons. C'est-à-dire que le jardin qu'ils ont commencé, ils le continuent.
Ok. Ouais.
Et du coup, il y a eu un intérêt pour aller mettre la main à la terre, mais chez soi, à la maison, vu qu'ils étaient bloqués, du coup, ils se sont réappropriés leurs propres espaces, les gens, quoi. Et j'ai l'impression que ça, par contre, ça perdure un petit peu.
Ok, donc on peut garder un peu l'espoir quand même. Il y a des choses qu'on change et qui restent un peu. Tu disais, une des choses qui a attiré un peu les gens, c'est le côté permacole, qui est effectivement une des particularités de ce lieu que vous avez mis en place depuis que vous avez repris l'histoire. Racontez-nous un peu, parce que souvent, la permaculture, c'est... J'ai l'impression que ça se cantonne un peu à des projets plus petits ou familiaux ou...
Faire des buts
et puis des spirales aromatiques, comme dirait David. Ouais, c'est sa grande passion dans la vie, c'est les spirales aromatiques.
On est vachement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fin de compte, nous, la permaculture, moi, je parlerais plus facilement d'agroécologie en termes de technique. Ouais. Après, avec des éléments, l'agroforesterie qui se rajoute à tout ça. Et puis nous, la permaculture, je la mettrais plutôt au niveau de la permaculture humaine, au niveau de la clé, quoi. Où là, on est plus dans... Justement, rien que par rapport à notre gouvernance horizontale, ce genre de choses, on essaie de trouver des outils de fonctionnement différents, quoi. Mm-hmm. Après, agronomiquement parlant, avec 220 paniers par semaine, faire des buts tout mélange, enfin, pour nous, ça n'a pas de sens, en fait, quoi. Ouais. C'est, on reste des professionnels, il faut qu'on nourrisse les gens et pas... laisser grainer les herbes puis attendre que ça pousse.
Ouais, souvent effectivement c'est un peu l'image qu'on a de la permaculture, c'est une grosse butte avec des troncs au fond, de la paille dessus et puis un peu tout qui pousse dans le désordre, et c'est souvent ça qui retient, j'ai l'impression, les professionnels de faire un changement par rapport à ça. Vous, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça a concrètement changé? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou que vous êtes en train, ou vous voulez mettre en place?
Mais en fait, ça,
à la Clé des Champs.
Ouais, c'est aussi des plantes beaucoup permanentes en permaculture. Alors, on a mis plein d'arbres, ça quand même, puis des aromatiques, des rhubarbes, des plantes pluriannuelles, ça, on a pas mal augmenté quand même. Dans ce sens-là, c'est quand même plus permaculture, je trouve. Après, on n'a pas mis trop de choux, de bantons, d'oignons rocamboles, ce genre de trucs, parce que pour avoir du rendement, pour remplir des paniers, ça joue pas, quoi. Mais quand même, je trouve, dans l'approche permaculture, qui a peut-être en plus que dans l'agroécologie, il y a le design. C'est-à-dire de vraiment faire une réflexion vraiment poussée d'agencement des éléments pour que ce soit après très rationnel au final. Et puis ça, on l'a fait. Et puis c'était vraiment un grand plus quand même par rapport à ce qui se faisait avant.
Donc c'est prendre le temps concrètement de se poser autour de la table à plusieurs pendant combien de temps? Ça prend combien de temps de faire un design de permaculture?
Ouais, c'est ça, on a vraiment tout eu ces éléments en tête pendant un an. On s'est aidé de gens qui étaient expérimentés en permaculture aussi pour le faire. Et voilà, ça a abouti à un beau design.
Et là, on en revient à la permaculture humaine, justement, cette émulation de gens et d'idées, et puis le fait que ce soit... Quand on réfléchit à plusieurs, on a des fois... Il leur ressort des choses un petit peu plus belles qu'une vision individuelle.
Ouais. Et puis justement, le fait d'oser innover, le fait d'oser changer les choses, de changer le sens des lignes.
On s'est donné vraiment une carte blanche à la base. Puis ça, je pense que c'est vraiment intéressant.
Ouais. C'est vrai, et en même temps, c'est presque une nécessité, en fin de compte, que de réfléchir dans ce sens-là, justement, avec les changements qui vont s'opérer au niveau du climat.
Ouais, mais on se rend compte que dans des projets comme ceux-ci, même si on est dans des gens qui ont envie de faire autrement, de vivre autrement, bah, on a quand même vite fait de reprendre le plan de culture du voisin qui l'avait déjà repris sur son voisin, qui l'avait déjà repris sur son voisin. Enfin, voilà. En gros, c'est la moitié de la Romandie qui a pris le plan de culture ici, l'autre moitié qui l'a pris à Genève. Dans les deux vieilles ACP, et puis ça s'est un peu essaimé comme ça avec Rage de Verre qui a fait un peu des mises à jour il y a quelques années. Et c'est comment on se donne l'opportunité de tout d'un coup reposer les choses et d'avancer sur ces questions-là. Et peut-être une des choses, j'ai l'impression, qui a permis de faire ça ici, c'est quand même que vous êtes une des seules coopératives, si c'est la seule, qui est propriétaire de votre terrain.
Alors ça, clairement, clairement, je pense que...
Ce qui a permis de poser l'outil.
Ouais.
Quand tu sais où tu vas et que t'as... que tu as un outil pérenne, bah, en fin de compte, tu peux te permettre de poser les choses, en fin de compte, tout simplement, et puis de planter des arbres, et de savoir qu'elles peuvent rester encore pendant un siècle, alors que ce sont des parcelles en location. Que vont devenir les arbres?
Ouais. Mais est-ce qu'il faudrait quand même pas prendre le risque de mettre des arbres sur une parcelle en location, puis ma foi, si dans 20 ans il faut les arracher, on les arrache?
Ça fait mal au cœur, parce que c'est mon histoire.
Ok.
Donc,
t'as vécu ça?
J'ai vécu ça, ouais.
Ouais.
15 ans à mon compte et puis perdre des baux. J'avais planté des vergers, plein de choses. Et t'abandonnes tout, quoi. Donc, non, c'est un petit peu dur.
Ok.
Surtout qu'après, t'as du maïs qui revient après tout le travail que t'as fait, quoi.
Ouais, donc tu avais un beau champ que t'avais fait en permaculture et après, derrière, c'est du maïs.
C'est ça.
Ok, donc effectivement.
Donc voilà, la pérennité et puis l'achat de la terre au niveau agricole, je pense que ça a son importance.
Ok, donc parce que c'est aussi une réflexion qu'on a souvent de se dire, on se démerde, on fait un peu comme on peut. Si on a un bout en location, on prend le bout en location, puis on monte une ACP, on monte un truc, on s'encourage et puis on fait
et
des choses.
Et quand on est des néo-ruraux, en fin de compte, on va prendre ce qu'on nous donne.
Ouais.
On n'a pas le choix comme un paysan qui est bien implanté dans un village, qui est de là, qui connaît ses voisins, il sait que lui il va partir à la retraite, qu'éventuellement ils ont déjà arrangé la suite et qu'ils vont récupérer les hectares des uns et des autres. Quand t'es un néo-rural, t'es pas connu dans le village. T'as pas fait tes preuves parce que le bon paysan demande à voir. tout simplement. Qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, est-ce que tu bosses.
Ouais. Ouais, c'est surtout ça, la valeur, est-ce que tu bosses.
Ouais.
Mais, ouais. Je pense que le genre, tu t'arrives sur des nouvelles terres, genre toutes ces nouvelles ACP, je sais pas moi, la belle courgette ou la mule, tout ça. Tu arrives en première année, tu peux pas planter des arbres, je pense. Après, d'un coup, je sais pas moi, après quelques années, si t'as un bon feeling avec le paysan, que tu regardes un peu dans la même direction, peut-être pourquoi pas. Mais peut-être il faut le faire participer un peu financièrement aussi pour qu'il ait moins envie de les arracher.
Le jour où ça va. Ouais.
Je sais pas, je pense qu'il y a moyen, mais...
Ouais, puis l'accès au foncier, de toute façon, je crois que c'est un sujet justement presque politique en fin de compte.
Ah bah c'est un sujet qui est éminemment politique, clairement.
Voilà, ouais. Donc je pense vraiment... Puis il y a un travail à faire un peu partout, parce qu'en fin de compte, la plupart des terres sont dans les mains des agriculteurs, et pour... quand t'es pas de ce milieu, leur faire comprendre que t'as envie de l'être également, c'est comme pas accepté, en fait. T'es pas paysan, ton père était pas paysan, tu le seras pas. Il y a comme une logique un peu...
Ouais, puis encore, il y a une pression sur les terres agricoles, parce que les fermes doivent s'agrandir pour rester viables, maintenant, puis ça c'est politique, c'est vrai. Puis du coup, s'il y a encore des nouveaux qui viennent, et puis qu'il y en a pas assez qui arrêtent...
Et c'est des subventions en moins.
Ouais.
Aussi.
Et puis il y a effectivement un choix qui a été fait de dire on veut des fermes de plus en plus grandes et on veut éviter de morceler, on veut éviter des petites exploitations.
Et on en revient toujours aux politiques. Ouais. Donc,
c'est intéressant justement en termes d'argumentaire de se dire si on veut accélérer la question de la biodiversité, si on veut avoir des endroits qui soient le plus résilients possible, en fait il faut qu'il y ait des gens qui aient accès à la terre aussi parce que sinon on va pas le faire.
Ouais. Et puis il y a tout un combat de législation aussi. Ouais. Je pense qu'il faut légiférer sur ce genre de choses, poser les choses clairement.
Et puis les néo-ruraux apportent énormément d'innovation dans l'agriculture, parce que le fils de paysan, il va faire comme son père. Quoi.
Ouais, c'est un milieu conservateur.
Bah, il va, surtout qu'il va récupérer et tout le matériel et l'emprunt. Donc, a priori, il n'aura pas des masses de marge non plus.
C'est ça.
Il aura le million de dettes et le tracteur à 200 000. Et puis, du coup, il va repartir un peu, effectivement, dans les ornières.
Et puis, c'est tout un schéma agricole, en fin de compte, qui correspond plus à ce dont on a besoin, en fait, tout simplement.
Ouais, ou en tout cas, qui est effectivement, qu'il faut voir évoluer, puis en même temps, il convient encore dans le sens où le pain qu'on mange, c'est encore du pain qui est fait avec du blé de grande culture, pour l'instant. Donc, c'est encore pas, les néo-ruraux qui vont faire le blé pour le pain, quoi.
On n'y est pas encore.
Donc, voilà.
Après, pourquoi pas, t'as quand même.
Après, des grandes surfaces en bio.
T'as Maud, la ferme de Maud, là, au village, à Courtemontru, ben. Donc, elle n'est pas du milieu. Elle est assistante sociale à la base. Et ben elle a fait l'apprentissage de paysanne. Elle a racheté une ferme. Et ben elle a eu les moyens d'acheter une ferme aussi parce qu'elle a un métier qui la rémunérait bien avant. Et puis, ben maintenant, elle a une ferme qui n'est pas grande, mais elle fait quelques grandes cultures. Et puis, on profite du pain qu'elle fait avec ses céréales à la ferme même. Il y a quand même des choses, des exemples intéressants.
Qui existent, ouais. Et donc, une autre particularité ici, c'est les plantons. La plupart des autres fermes achètent, enfin des micro-fermes, beaucoup achètent des plantons parce que c'est quand même toute une infrastructure. Qu'est-ce qui vous a lancé à vouloir les faire, vous? Comment vous les faites? Quelle place ça prend dans votre année, quelque part?
Alors, historiquement, ils ont toujours fait des plantons. En fait, c'était déjà ancien, donc qui avait le souhait d'avoir la maîtrise en fait, sur son outil de travail. Donc, qui dit maîtrise, il dit aussi faire ses plantons. Choix variétal, adaptation au milieu où tu te trouves. Puis la liberté du choix, quoi. C'est ce qui est important. Quoi. Si tu fais appel à des faiseurs de plantons, tu deviens éleveur de plantons, enfin tu es de nouveau dans ce schéma agricole où tout est sectorisé, où tu es juste un maillon de cette chaîne en fait. Donc en fin de compte, après ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ça fait presque un poste supplémentaire à certains moments de l'année.
Mais pour nous, ça nous offre aussi un souffle au niveau de la trésorerie, parce que ça apporte une trésorerie assez conséquente à un moment de l'année où il y a peu de légumes. Donc l'un dans l'autre, ce temps de travail, en fin de compte, il est quand même assez bien rémunéré. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est très peu mécanisé également à la serre à plantons.
Donc heureusement qu'on a les coopérateurs, sinon par contre on ne serait pas du tout efficient dans un modèle classique. Où là on serait obligé de mécaniser bien plus la production de plantons. Ouais. Et donc utiliser aussi ce qui va avec, du terreau avec tourbe. Donc nous on s'interdit le terreau avec de la tourbe justement pour des notions de... On n'a pas envie de prélever cette matière première ou être des acteurs de ce prélèvement. Donc ouais. On a des terreaux sans tourbe. Donc ça implique... une autre méthode, quoi, des multiplaques, des semi-encaissettes, du repiquage. Économiquement, c'est pas un modèle très efficace. Mais à l'échelle de la clé, en fin de compte, ça s'intègre très bien. Et notamment en micro-maraîchage, je pense qu'il y a vraiment moyen de sortir un petit peu de la dépendance au niveau de ouais. l'achat des plantons. Quoi. Peut-être pas entièrement, si t'es mal équipé, mais au moins une partie de l'année.
C'est quoi du coup l'équipement de base qu'il faut pour se lancer dans ces plantons?
Alors il faut une serre suffisamment isolée, chauffée, pour pouvoir commencer. Nous on commence nos semis en janvier, donc dehors, ouais. et, ça peut être gelé ou blanc. Ouais. Donc semer tes tomates dans ces conditions-là, ouais. ça paraît un petit peu pas très saisonnier, on va dire. Ouais. Mais bon, étant des maraîchers, nous faut qu'on arrive à les planter suffisamment tôt dans nos serres pour avoir une production suffisamment tôt. Parce que notre métier, c'est comme faire des primeurs et puis d'avoir des tomates avant le jardinier. Donc, ouais. Donc ça implique une certaine avance sur les semis et qui passe par un équipement adapté. Tout okay. simplement, qui peut être un peu coûteux à l'investissement, mais qui est tout de même rentable et amortissable assez vite.
Donc c'est air chauffé, il y a d'autres choses. Tu disais du coup si terreau sans tourbe, du coup ça veut dire travailler avec des multiplaques.
Ce genre de choses. Avec la tourbe, ben, là il suffit d'acheter une motteuse qui te fait tes bottes. Éventuellement il y a même le semoir dessus. Donc là effectivement tu gagnes beaucoup de temps, mais ouais. c'est une production moins soutenable, on va dire.
Ouais. Ouais, parce que les gens, pour qu'ils comprennent bien, je suis pas sûr que tout le monde sait ce que c'est. La tourbe, ça vient d'où? C'est quoi?
La tourbe, donc ça vient des zones humides. C'est un rétenteur d'eau très important et il y a très peu de zones humides ou de moins en moins vu qu'on a tout drainé, donc le peu de poches qui reste, il faudrait ne pas prélever dedans quoi. Et le monde agricole est le principal consommateur de tourbe, donc en fin de compte c'est à l'agriculture de réfléchir sur cette matière première quoi. Et qui n'est pas comme toute matière première, il n'y en a pas
des stocks infinis
quoi, ouais. tout simplement. Donc, il faut peut-être penser à tout ça aussi. Mais après, c'est vrai que c'est un très, très bon rétenteur d'eau quand on utilise des tourbes. Du terreau sans tourbe, t'arroses plus.
Ouais. Ça, c'est clair. Okay. Donc, ça change aussi cet équilibre-là.
Ouais, ça fait des mottes qui tiennent moins bien, t'arroses plus.
Que tu peux peu mécaniser. Ouais. Donc, le maraîchage sur grande surface, ils sont très mécanisés. Donc, ils ont aussi cette contrainte. C'est que les mottes sont utiles à leur machine parce qu'elles sont prévues pour les mottes et pas autre chose.
Ok.
Donc, on en revient à nos pratiques en fin de compte qu'on a fait évoluer, mais pas forcément toujours dans le bon sens.
Et donc, y a quand même une équation que les gens doivent avoir en tête, c'est que si on démécanise des choses, en fait, il faut rajouter du temps de travail. Il y a pas de miracle.
Il faut des mains derrière.
Mmh.
Donc là où on revient à la coopérative, la force, c'est les coopérateurs et toutes ces mains multiples qui viennent aider au long de l'année, ouais. qui nous permettent justement de sortir un petit peu des dépendances mécaniques ou de techniques peu moins vertueuses, on va dire.
Ouais. On a fait un peu des calculs de coût de revient de nos plantons pour situer un peu par rapport au prix auquel on les vendait, puis pour soir juste un peu évaluer un peu la rentabilité du poste. Puis on est bien rentable sur nos plantons maintenant, mais si on devait tous les faire, moi et Yann, alors on serait plus rentable. On l'est parce qu'on a des coopérateurs, des stagiaires, qui peuvent un apprenti ou une apprentie qui participe aussi.
Ouais. Ah, donc c'est vraiment ça, c'est cette compétitivité, elle peut se retrouver si on arrive à mobiliser des gens qui, quelque part, viennent donner du temps.
C'est ça.
Mais est-ce que c'était pas un peu comme ça à l'époque aussi, où au moment où il fallait faire les foins, la moisson, tout ça, tout le village allait s'y mettre, qu'on soit paysan ou pas, les enfants, les...
Il y avait besoin de moins de surface pour le même résultat. Après, le problème, c'est que maintenant, pour un même résultat, il faut qu'on ait presque deux fois plus de surface. Les charges sont plus importantes. Les fermes familiales, il n'y a pas toujours tout le monde qui participe. Avant, c'était vraiment l'ensemble de la famille. On parle même des oncles, des tantes. Les familles étaient
peut-être plus grande aussi, je ne sais pas.
Mais c'est une question intéressante parce qu'on touche aussi au prix de toutes les denrées alimentaires, tout ce qui vient du monde paysan en fait. Tous les prix sont sous-évalués ou ils sont artificiellement bas parce qu'ils sont, ils reposent sur des méthodes de travail, de production qui ne sont pas durables en fait. Et où on utilise beaucoup d'intrants qui polluent la terre, on utilise beaucoup de pétrole aussi parce qu'on mécanise tout. Et puis tout ça, à un moment donné, ça ne pourra plus durer parce qu'on épuise la terre à cause de ça, en fait. Et du coup, toi, si tu arrives avec une production qui est éthique, où tu as réfléchi à tous ces problèmes environnementaux, à ces problèmes de durabilité, tu arrives avec des coûts de production, si tu veux être salarié, où tu es beaucoup trop haut, en fait, par rapport à ce que fait le reste de la branche.
Ça, c'est une réflexion que toi, t'as amenée, tu l'expliquais tout à l'heure, sur le juste prix par rapport à un juste salaire. Ouais. C'est quoi, comment t'as calculé ça et qu'est-ce que ça changerait pour le prix des légumes, par exemple?
Ben, c'est pas un calcul hyper compliqué. En fait, on a regardé notre comptabilité, on a pris nos charges, donc l'ensemble des charges, on a pris les salaires aussi des jardiniers qui sont la majeure partie en fait des dépenses de la coopérative. Et en contrebalancement de ça, on a regardé la production qu'on arrive à faire sur l'année. Et avec ça, en faisant quelques calculs, on arrive à déterminer quel serait le prix juste du panier. Donc le prix que les coopérateurs devraient mettre pour arriver à salarier nécessairement les jardiniers et couvrir les charges de la coopérative. Et là, on voit que par rapport au prix actuel, il manque un tiers. Puis c'est encore un prix juste, entre guillemets, qui est assez bas parce qu'on n'a pas encore tenu compte des heures des bénévoles et des stagiaires dedans.
Et qu'en plus, vous êtes déjà propriétaire de la terre et qu'il n'y a pas en plus d'investissement. Vous n'avez pas, j'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup de dettes pour rembourser.
Ah, ou bien... si, on est encore en train de rembourser maintenant.
D'accord.
Disons que c'est pas un poids énorme dans le budget de l'année, mais c'est quand même 5% du chiffre d'affaires.
Et là, justement aussi, toute la force de la coopérative et les coopérateurs, c'est les coopérateurs qui ont prêté l'argent pour l'achat du terrain. Donc, on n'a aucun moment approché une banque ou quoi que ce soit. Donc, c'est nouveau les coopérateurs qui ont aidé à financer le projet. Donc, on a quand même des gens qui sont très, très engagés, quoi. Et ça, c'est honorable.
C'est assez précieux, effectivement. Ouais. Ça permet de faire d'autres choses que si on est tout seul avec un emprunt.
Ouais, puis un emprunt à 0%, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. C'est un petit peu long à rembourser, mais ça, entre guillemets, ça coûte rien.
Ouais, c'est moins long que si t'es à 10%.
Voilà.
Clairement. Mais il y a quand même un truc qui me fascine dans cette histoire. C'est que même un projet comme celui-ci qui a été monté par des gens qui avaient envie d'un monde différent, on est en dessous des salaires, alors même que c'est qu'un tiers de la force de travail. Donc, c'est quoi, les prix, ça veut dire qu'ils sont complètement fous. Enfin, je veux dire,
ils sont complètement faux, les prix. Et puis, qu'on le veuille ou non, nous, notre base pour calculer nos paniers, etc., ça reste le prix du marché, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'autres références. Quoi.
Ouais. Et puis, juste qu'on se mette d'accord, le salaire sur lequel tu as calculé ça, c'est combien par mois pour, quand on dit un salaire décent, normal
En fait, j'ai pris la grille salariale de l'USP, j'ai regardé dans mon numéro de compétences et celui de Yann, et du coup, c'est à peu près le même. Puis là, par rapport à ça, on est à 5000 francs, c'est une fourchette. Si on prend la médiane, disons, un peu en dessous de la médiane, ben, on est à 5000.
5000 bruts par mois pour un 100%.
Ouais, c'est ça. Okay. Après, par rapport au nombre d'heures par semaine, ça dépend des cantons. Mais dans le Jura, je crois que c'est 50. Et puis nous, à la coopérative, on a une base à 45.
Ok, un 100% à 45 heures en plus, donc c'est pas 40 heures.
Ben non.
Comme c'est dans d'autres. C'est ça. Non, mais c'est juste, je trouve hyper intéressant de profiter que vous soyez là, puisque vous avez fait ces calculs, puis que vous l'avez mené un peu avec vos coopératrices, coopérateurs, parce que c'est assez fou. Ça veut dire que c'est pas un gros salaire, que c'est beaucoup d'heures de travail, et que même ça, on n'y arrive pas dans une coopérative qui est assez innovante, puis qui est en plus très installée. Parce qu'on pourrait se dire,
Enfin voilà, nous on est en train de monter un projet d'accueil social à la campagne, ben on se paye une heure sur 10 parce que c'est la première année et puis qu'on verra bien, puis on espère que dans 5 ans on tirera des salaires. Mais c'est la première année, puis on sait que c'est le jeu, puis on sait que c'est des années comme ça où il faut démarrer. Là, ça fait 40 ans et même comme ça, ce que tu racontais aussi tout à l'heure, c'est que vous avez du coup proposé cette modification de prix et qu'il y a un succès qui est mitigé, dirons-nous.
Bah, disons, on s'attendait à ça, mais donc on était content de récolter 10 000 francs en plus avec cette proposition de prix juste, mais c'est vrai que c'est peu par rapport au potentiel, puisque si tous les coopérateurs avaient mis le prix juste, on aurait récolté 40 000 francs en plus. Après, c'est vrai que comme tu le dis, la clé, on est encore bien loti, parce qu'on on s'est comparé un peu nos salaires à d'autres coopératives, à d'autres... projet d'ACP en Suisse romande, puis en fait on était bien payé par rapport à... Ils étaient presque en train de nous dire pourquoi vous plaignez.
C'est, c'est quand même assez dingue.
C'est vrai. Alors qu'au bout du compte, quand tu vois tout ce qu'on donne, mais le problème c'est que ça reste figé comme ça depuis des décennies en fin de compte. Et que les paysans acceptent cet état de fait, quoi.
Et si même dans le milieu des ACP, on se lime par le bas, quelque part, enfin, je veux dire, on est foutu. Si même entre nous, quelque part, on n'est pas capable de se dire, bah, vous avez raison, merci d'être là, nous, on va essayer de monter aussi.
Mais non, mais ils se disaient quand même ça.
Hein, oui, on est d'accord, mais c'est quand même assez dingue. Ça veut quand même dire vraiment qu'on a.
On a tout tiré vers le bas.
On a tout. C'est vraiment une habitude dans le monde paysan, pas gagner grand chose, puis c'est normal, c'est accepté socialement.
Ouais, c'est ça. Tu l'acceptes.
C'est spécial. De toute façon, tu bosses tout le temps, si t'as rien d'avoir de l'argent, hein. T'as pas le budget.
C'est ce que j'allais dire. Quand j'ai commencé mon projet agricole, de toute façon, je savais que je ferais plus que ça, en fait. Heureusement que c'était une passion. Du coup, j'ai pu vivre de ma passion tous les jours.
Alors, moi je, comment dire, encore une fois, que tout le monde n'ait pas les budgets pour partir à Tahiti deux fois par année, enfin, disons, à la montagne en hiver et puis sur les îles en été. Pourquoi pas, puis peut-être bien que c'est pas ça le modèle qu'il faut faire, puis qu'on a un peu pété les plombs avec ce truc de devoir avoir des plus grosses voitures, plus grosses maisons, tout ça, ok. Mais si on est avec des milieux professionnels où un, on peut pas se payer ce qu'on est en train de vendre, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas les moyens de se payer un panier de légumes parce que on n'est pas payé assez, et que après il y a des problèmes quand même de retraite qui sont aussi assez importants, en se disant on va avoir des gens qui ont travaillé physiquement toute leur vie. On n'est pas sur des profs d'uni qui peuvent, ou alors pour avoir une famille.
Mais comme disait Denis, le monde agricole est dans l'acceptation de tout cet état de fait, parce que ça n'a jamais bougé en fin de compte, et que tout a toujours été fait en fin de compte pour maintenir en fin de compte les choses en l'état.
Mais dans des projets collectifs comme le nôtre, ça pose plus problème, je pense, que pour une ferme, parce que à la fin de ta carrière professionnelle comme maraîcher dans une coopérative, ben on te dit merci, puis après, t'as plus que ta petite rente. Mais si t'as une ferme, bah tu revends ta ferme, au moins. Puis t'as amélioré, t'as fait des investissements structurels, donc tu peux valoriser ça à la fin. Et ça te paye une bonne retraite, quand même, en général. Là, on n'a pas ça, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Ça peut pas être trop pérenne. Hans-Jörg, notre prédécesseur, je pense qu'il s'en sort bien, enfin, il a une retraite qui lui permet de vivre, c'est aussi parce que sa compagne est enseignante.
Ok, donc c'est aussi des choix de famille, quelque part, d'en avoir un des deux qui cotise pour de vrai, pendant que l'autre fait pousser des légumes.
Ouais, parce que sa compagne, elle était tout le temps autant acquise à la cause de la clé des champs que lui, donc ça allait.
Ouais. Bon, après, en bon paysan, tu vas compléter ta retraite en travaillant et en continuant ton jardin pour continuer à manger. Ta retraite ne suffit pas. Ouais. Donc l'un dans l'autre, t'as quand même le savoir pour manger au cas où, quoi.
Puis souvent, tu restes à l'intérieur de ta ferme et puis tu loues les terres. Enfin voilà, il y a effectivement un autre modèle économique qui fait que ça tient.
Le fait d'être dans l'acceptation comme ça, c'est un peu du masochisme, quoi.
Mais après, c'est quand même difficile de sortir d'une logique comme celle-ci, parce que, tu vois, si je regarde le contexte de la clé, tu veux augmenter le prix du panier, mais tu peux pas le faire de manière contraignante, parce que il y a d'autres personnes à côté de toi qui font aussi des paniers, puis ils sont pas plus chers, enfin ils sont moins chers que les tiens à la limite, puis de prime abord, la personne, pour vraiment arriver à comprendre pourquoi il y a une telle différence, il faudra vraiment qu'elle s'intéresse. Mmh. Et la plupart des gens, ils ne vont pas aller aussi loin, ils vont juste voir le prix, puis ils vont aller à celle d'à côté. Tu vois?
Ouais. Ouais, c'est les joies de la concurrence qui fait qu'effectivement, ouais, ça va tirer les prix vers le plus bas possible.
Mmh. Ouais.
Et ça...
D'où la position aussi des coopérateurs. Des fois, tu ne sais pas trop... Il y a des gens qui sont consommateurs, d'autres qui sont consommateurs. Et par l'éducation, on peut peut-être les faire virer vers le consommateur. Mais...
Et c'est quoi? Comment on peut... Parce que justement, après la question, c'est comment on réfléchit à faire évoluer ces mentalités-là. Parce que de nouveau, moi, ça me fascine que dans un contexte comme celui-là, avec des gens qui déjà sont abonnés à un panier de légumes, donc ça veut dire qu'ils sont déjà dans une démarche de vouloir autre chose. Là, l'augmentation que vous proposiez, pour se faire une idée, ça fait une différence de combien par semaine, par année, sur le prix d'un panier de légumes?
Ça fait une augmentation d'un tiers par rapport au prix nominal.
Ok, donc c'est quoi le prix d'un panier chez vous? Et
c'est 30 francs, donc ça ferait 40.
Ok, pour une famille, par semaine.
Ouais.
Donc on est...
Par année, on est à 1003 au lieu de 1000.
Ouais.
Pour simplifier.
Tout en sachant également que les prix pratiqués à la clé, en fin de compte, vu qu'on intègre cette participation de nos coopérateurs, nous, la grille des prix du marché qu'on utilise, c'est les prix hauts du conventionnel, donc on n'est même pas encore dans les prix du marché bio.
Okay.
Donc nous, nos légumes, ils sont calculés selon les prix du conventionnel. Bon, le barème haut, mais donc plus bas que le prix du marché bio.
C'est vrai que là, même le prix équitable reste un prix bon marché, entre guillemets, pour des légumes bio. D'une part, à cause de ce que Yann vient d'expliquer, mais aussi parce que généralement, on met plus de légumes dans le panier que ce qu'on devrait par rapport à la valeur qu'on a définie à la base. Parce qu'on a des surplus, on produit plus que ce qu'on devrait. Il y a juste quelques années, comme l'année passée, qui sont catastrophiques, où on est à peine en dessous, quoi.
Et encore, on s'est bien débrouillé pour une année catastrophique. Comme dit, on était à peine en dessous. Donc, en fin de compte, on a rempli notre contrat vis-à-vis de nos coopérateurs.
Ouais.
Ils ont été nourris malgré cette année catastrophique. Ça, je pense que c'est vraiment... On peut le mettre en lien avec les changements agronomiques qui ont été opérés.
OK. Et ça, du coup, on va y venir. Mais juste peut-être pour terminer, donc... Pour revenir sur les chiffres, on est sur 300 francs d'augmentation par année pour une famille, pour vous permettre d'avoir un prix de salaire juste.
Ouais.
C'est quand même... Ouais. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a tout un travail à faire, parce qu'on se dit... Enfin, je ne dis pas, il y a sûrement des familles pour lesquelles 300 francs par année, c'est un gros enjeu. On en parlait tout à l'heure avec Thalé David, la sociodémographie, généralement, des gens qui prennent des paniers de légumes, c'est des gens pour qui, je pense, 300 francs par année, c'est jouable. On n'est pas...
qu'on le veuille ou non, on a comme des gens qui, la plupart, ont étudié, ont de l'esprit.
Mmh.
Il y a toute une réflexion avant de prendre le panier, justement, parce que il y a une volonté derrière ce choix. Donc, effectivement, on a des gens qui viennent à ce milieu socio-professionnel qui n'est pas défavorisé, loin de là.
Généralement, ouais.
Ouais. Et donc, ouais, un effort à faire, mais aussi collectif de pédagogie, et puis d'arriver... parce que la concurrence chez qui les gens iraient parce qu'ils sont moins chers, ils ne se payent pas non plus des bons salaires, on est bien d'accord. C'est vraiment ces salaires qui sont limés.
Clairement.
Après, on vit dans un modèle dans lequel on était, comment dire, conditionné, quoi. Dès l'école, on t'apprend la compétitivité avec ton voisin, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Donc, ça ramène... de l'individualité prégnante, quoi.
Mais je pense que on fait pas un mauvais boulot, on connaît bien notre métier. Donc s'il y a des gens qui sont plus compétitifs, ça veut dire qu'il y a un limage sur l'éthique d'un côté ou d'un autre. Ça peut être sur les salaires des employés, sur la façon dont on traite le sol.
Et du coup, ça nous permet de faire encore un petit pas vers un autre sujet, qui est justement la façon dont vous traitez le sol et qui peut-être a donné des bons résultats aussi l'année passée, qui a permis de tenir sur une année un peu difficile. Comment vous faites? C'est quoi votre façon de travailler ou pas les sols? C'est quoi votre philosophie par rapport à ça?
Bah déjà, tout au départ, il y a eu ce design qui a fait qu'on suit maintenant les courbes de niveau, donc pour une meilleure infiltration de l'eau, l'arrêt des labours, l'arrêt du fraisage. Donc on ne travaille qu'avec des outils tractés à dents.
Okay.
Aucun outil entraîné par la prise de force. Donc pas de...
on réduit pas le sol en farine, etc., etc. On sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, l'emploi d'engrais verts, de paillage, soit sous forme de bâche, soit sous forme organique, l'intégration de l'agroforesterie dans nos cultures pour apporter de l'ombre à des moments de l'année. On aurait besoin d'ombre vu le réchauffement climatique. Ça aide aussi à l'infiltration de l'eau par le travail des racines des arbres. Donc c'est un petit peu tous ces éléments qu'on a mis en place, et je pense que pour l'instant on n'a pas encore le recul nécessaire de voir l'efficacité de tout ça, parce que ça reste assez jeune. Par contre, on remarque bien que avec Denis, qu'en prenant déjà le soin des sols correctement, on a déjà de bien meilleurs résultats, quoi, notamment en termes de vie du sol, comme l'expliquait Fabrice, au niveau de la porosité, du pourcentage de vie, du pourcentage d'humus, tout est en augmentation, quoi. Donc, et ce qui se ressent après sur la production également.
Ça, c'est une constatation que vous avez, parce que souvent, on peut clairement dire que c'est un truc de bobo bio, de vouloir augmenter la vie de son sol, mais sur la production, vous avez vu des différences?
Oui, on a des belles... sur des surfaces, on a des cultures qui étaient plutôt des rendements médiocres. Maintenant, on a des super... super résultats.
Et puis on a même plus que nos besoins pour les paniers. Donc on a des excédents maintenant qu'on peut également vendre dans les petits magasins de ferme, etc. Qui là font un petit appel d'air à la trésorerie, qui dégage une part d'investissement. Donc en fin de compte, la vente des plantons plus les changements agronomiques ont dégagé un chiffre d'affaires un petit peu plus important.
Ok, donc ces changements agronomiques, pour être clair, fait qu'à travail égal, vous avez produit plus que vous pouvez vendre ailleurs, sur la même surface et au même...
Disons que l'installation du projet a fait qu'on a quand même passé énormément d'heures. Donc il faut vraiment qu'on arrive au bout de ce design pour qu'on se dise... peut-être qu'on va travailler moins, mais pour l'instant, ça ne se ressent pas trop.
Non, puis aussi au niveau du soin du sol. Alors, on partait de loin parce qu'on a des sols avec des stocks grainiers de mauvaises herbes énormes. On avait beaucoup de chardon sur la plupart des surfaces, beaucoup de rumex. Alors, pour reprendre tout ça en main, pour avoir vraiment un sol maraîcher, j'ai envie de dire, où tu n'as pas trop de mauvaises herbes déjà en stock, ça, c'est une surcharge de boulot. Puis après... prendre soin du sol, de faire vraiment des apports de matière organique réguliers, conséquents, c'est aussi du temps. Et puis ça, pour l'instant, ça nous prend plus de temps en tout cas.
Okay.
Mais on en gagne un petit peu au fur et à mesure. On a acheté une épandeuse qu'on a à fumier, donc on a mis à l'échelle de nos planches. Donc ça nous permet vraiment de travailler individuellement chaque planche, d'amener les apports nécessaires en fonction des cultures. Donc en mécanisant un petit peu plus par rapport à ces techniques nouvelles, on gagnerait du temps. Mais là, ça demande à nouveau un peu d'investissement, notamment de temps, vu qu'on auto-construit pas mal nos machines.
Ok.
Pour aussi sortir de la dépendance industrielle, du coup. Donc à terme, on va gagner en temps, mais pas pour l'instant, vu que tout est encore en transition. Ça nous demande de porter un petit peu toute cette transition et tous ces changements. Qui demande, planter des milliers d'arbres, ça prend du temps. Après les tailler, enfin. Donc, pour l'instant. Et après, on a créé des groupes de travail pour alléger aussi le travail des jardiniers, notamment par rapport à l'agroforesterie. Donc là, on va les former à la taille, etc. pour petit à petit créer des petits groupes, en fin de compte, qui sont autogérés et puis indépendants de nous. Après, sous notre coupe quand même, parce qu'on porte le savoir, mais essayer de transmettre un petit peu le savoir pour nous libérer du temps, pour qu'eux puissent prendre possession de leur jardin, vu que les coopérateurs, quand même, c'est aussi leur jardin. Donc, ouais. À eux de porter aussi un peu ces changements.
Ces changements, ça fait combien de temps que vous les mettez en place?
On a démarré le projet en 2018, mais 2018 c'était plus vraiment le design.
Okay.
Donc on a un peu dû freiner même notre comité pour dire attendez, on va pas faire des spirales et puis des buts dans tous les coins. Et on a commencé du coup sur la base du design en 2019 à planter de la haie, à changer l'implémentation des parcelles, on avait quand même abandonné le labour avant ça, mais...
Ok, donc ouais. les changements de pratique sont venus avant
pour le sol.
Okay. Ouais, c'était la première chose qu'on a fait en 2018.
Mais le MSV vraiment, où on a pratiqué des forts rapports de matière organique, ça on a commencé en 2020.
Ah, donc c'est relativement récent aussi.
Ouais, ça fait... On a remonté de 0,5 points d'humus,
notre bilan humique
okay.
par rapport à ce qui a été fait avant.
En deux ans.
Mais en deux ans.
On a encore de la route. On aimerait ouais. le remonter de, je sais pas, à 3%.
Ouais, et puis plus rapide qu'en deux ans. Parce que 0,5, ouais, ça sera un peu long, quoi. 0,5 tous les deux ans.
Ouais, en même temps, ça laisse aussi le temps à, ouais. au sol de se réhabituer aussi, je pense.
Ouais,
que
bon, après, il a une capacité à bouger bien plus vite que ça. Là, c'est à nous
de rajouter.
Après, on est limité aussi par notre cahier des charges en bio qui limite tous les apports organiques quand même fortement. Donc là, il faut aussi retrouver une logique par rapport au maréchage, aux céréaliers et aux éleveurs. Quoi. Alors que sur ce cahier des charges, tout est englobé, alors que le maraîchage, c'est vraiment une branche bien plus particulière que les autres. On est beaucoup plus spécialisé, donc on n'a pas du tout les mêmes besoins et pour l'instant, ce n'est pas encore pris en compte.
Pour que les gens comprennent, on parle de ces bilans de fumure et du fait que ça, il y a des limites en fait à ce qu'on peut apporter en termes de matière organique sur un hectare, disons, sur voilà. un mètre carré.
Et nous, on devrait passer bien au-delà, en fin de compte, de ces contraintes.
Ouais. Et il n'y a pas d'exception qui peuvent être faites justement parce qu'on récupère un terrain qui était appauvri par des cultures traditionnelles, puis de se dire ok, là, on a le droit pendant 5 ans parce qu'on se reconvertit de mettre plus.
C'est... Après, si t'es un agriculteur, puis que t'as 30 hectares, puis 2 hectares de maraîchage, tu peux un peu jongler sur ton bilan de fumure, si tu veux, pour dire ah bah ce fumier, je l'ai pas mis stock, pas, je l'ai pas vraiment... Enfin, pour pas dire que ton fumier, tu l'as mis exactement là où tu l'as mis.
Ouais.
Tu vois, tu peux le diluer dans ton bilan de fumure global, ton apport. Donc, mais bon, nous, comme on a que du maraîchage, on peut pas... Faire ça.
C'est difficile de dire que vous l'avez mis ailleurs que
chez nous.
Que chez vous.
À la balance,
non,
chez
le voisin. Parce que quand on s'est dit, tiens, on en a acheté plus.
On est très altruiste, c'est connu pour ça d'ailleurs.
C'est ça. Puis on a vu le pauvre paysan traditionnel qui galère avec son champ. Donc on lui a mis 5 cm de compost partout. Juste pour que les gens aient une idée, on aurait pu commencer par là, mais vous faites combien de paniers de légumes et puis il y a quoi comme autre source de revenus que vous avez ici? Ben du donc, coup, ça a diversifié un peu.
Il y a les 220 paniers, donc qui comportent 3 tailles. Il y a le famille, le duo, le solo. Donc, on a bien compris, le duo, c'est la moitié de la famille. Et puis, le solo, c'est un quart, un tiers, un quart. Mais bon, voilà, c'est le panier qui est le moins intéressant. Après, on a les revenus de la vente de plantons en vente directe chez nous à la ferme. Et puis, il y a quelques magasins supplémentaires, dont celui qu'on a créé en partenariat avec nos collègues de Courtemotruy. On a un petit magasin qui s'appelle La Roulotte, où on y met nos légumes. Les Romains y mettent leur farine, leur viande, leurs légumes. Et puis, encore d'autres collègues qui achalandent pour le fromage, le pain.
Et les bières.
Les bières. Parce que
parce qu'il faut des
dans
bières.
Le Jura, il faut des bières.
C'est ça.
Il y a le vendredi, donc il est important que qu'est-ce qu'il faut. Et après, de tout petits magasins, en fin de compte, qui sont montés quasiment pendant le Covid, vu que la plupart des marchés c'était plus ou moins arrêté, ou on a peur qu'ils s'arrêtent. Et au bout du compte, c'est bien plus avantageux pour nous. Ça nous prend beaucoup moins de temps que les marchés historiques qu'on faisait à la clé, ou pour un résultat qui était plus que moyen. Enfin... C'était bien qu'on ait abandonné ça pour une autre forme de vente directe.
Et tu racontais ce matin que ça a vraiment évolué aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un changement parce qu'il y a plus d'acteurs sur ce marché-là, il y a plus de gens qui font des paniers et que les habitudes, elles sont changées aussi. Typiquement, à l'époque, vous aviez sauf qu'un seul panier, là, vous en avez plus. Vous avez changé quand, vous avez changé comment enfin, vous n'avez qu'un seul type de panier, maintenant vous avez ces trois...
Ben, à l'époque, c'était hyper militant, la Clé des Champs. C'était une poignée d'activistes pour l'écologie qui étaient rassemblés là. Puis du coup, il y avait vraiment un effort du consommateur pour simplifier la vie du producteur, en fait. Et puis, avec l'évolution de la société et puis de la Clé, ça a changé dans le sens du consommateur. On est toujours allé plus dans le sens du consommateur. Et voilà, puis comme il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire des paniers, qui n'étaient pas des paniers, c'était pas des gens qui avaient une coopérative avec un but politique aussi, enfin, toute une revendication idéologique, je dirais, et ben ils ont fait des paniers qui allaient dans le sens vraiment du consommateur. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec des voisins qui proposaient quelque chose de plus intéressant pour les nouveaux, quoi, enfin pour les nouveaux clients. Puis du coup, ben, on a perdu des membres parce que les membres qu'on perdait, ils n'étaient pas renouvelés parce qu'ils allaient plutôt chez les voisins où l'offre était plus intéressante pour eux. Donc, on a dû adapter notre offre pour aller plus dans le sens, dans leur sens, c'est-à-dire proposer différentes tailles de paniers, ce qui était plus compliqué pour nous. Diversifier aussi l'offre en légumes, améliorer la qualité. Tout ça, c'est lié à ce nouveau voisinage, en fait. Et puis aussi au fait que, finalement, cette base militante aussi de la clé, elle s'effrite. C'est plutôt les anciens. Tandis que les nouvelles générations, elles sont moins militantes, elles sont moins engagées. Elles sont plus là pour consommer local et bio, mais pas forcément pour s'engager, pour s'impliquer dans le projet.
Qu'est-ce qui peut être fait, vous pensez, pour redynamiser un petit peu cette question-là? Est-ce qu'il faut se résoudre au fait que le militantisme, c'était 60-70, les années 60-70, puis que maintenant c'est un peu fini, ou...
Bah ouais, c'est quand même un petit changement d'époque. J'ai dans l'idée, quand j'étais au lycée, on était toujours tous positionnés, en fin de compte, politiquement parlant, quoi. Même si tu n'avais pas trop d'idées de ce que c'était que la politique, mais tu avais des tendances, quoi. Tu étais plutôt de gauche, ou tu étais plutôt de droite. Enfin, tu te positionnais quelque part, quoi. Ouais. Et maintenant, je trouve que la jeunesse, à part celle qui bouge pour le climat, mais que je trouve quand même être une poignée, ben, les gens ouais, s'intéressent à autre chose, en fin de compte. Il y a plus ce côté citoyen, en fait, qui fait que tu es acteur, en fin de compte, du milieu dans lequel tu vis, et que, en tant que citoyen, tu as un levier quelque part, quoi. Quand tu peux avoir des idées que tu exposes pour faire avancer les choses, et que les gens ont peut-être moins d'idées. Tout simplement. Où ils sont, ouais, voilà, où leur centre d'intérêt est ailleurs, quoi. Comme tu disais, EasyJet, le Portugal, un week-end, c'est sympa, quoi.
Effectivement.
Mais c'est dur de trouver des solutions pour raviver ou conserver cet état d'esprit parce que t'as l'impression de nager à contre-courant, en fait. Parce que, puis là, le mouvement de la société qui va vers plus d'individualisme, il est plus grand que toi qui essaie de garder un état d'esprit collectif. Alors, on fait ce qu'on peut au niveau de la coopérative pour vraiment faire comprendre au nouveau que c'est un projet coopératif, qu'il faut s'impliquer. On communique tout le temps, toutes les semaines. On essaie toujours de rappeler ces choses-là, de rappeler nos valeurs à travers ce qu'on explique et tout. Mais... on essaye de, tant bien que mal, de garder ça, quoi, mais on sent que ça disparaît gentiment, malheureusement.
Ça pue une bataille, quoi. Ouais. Mais en même temps, quand ils viennent au jardin, quand ils nous approchent, quand on explique un petit peu tout ce qu'on fait, je crois que d'un coup, ça peut éveiller quand même les consciences, en fait. Mais il faut déjà venir au jardin. Ouais. Ceux qui sont à l'extérieur du jardin, je sais pas comment leur dire... S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. On ne peut pas boire un âne qui n'a pas soif.
Et en même temps, ça vient dans ce mouvement où il y a de plus en plus d'initiatives comme ça. Il y a de plus en plus de néo-ruraux, comme tu disais, qui lâchent leur métier pour aller ouvrir une micro-ferme à gauche, à droite. Puis il y a une émulation, en tout cas au niveau des gens qui... Au niveau de l'offre, en tout cas, j'ai l'impression de voir qu'il y a de plus en plus. Par contre, de ce que vous dites, ce n'est pas forcément corrélé avec la demande qui, elle, n'est pas... Et pas forcément en augmentation.
Oui, mais surtout que le monde économique s'adapte aussi à ces changements, on le remarque bien, la COP a une gamme bio assez importante, l'Espagne, la Hongrie, c'est des énormes surfaces en bio pour l'industrie céréalière, donc en fin de compte, il y en a qui ont de gros moyens et qui plongent en fait dans cette opportunité de faire une certaine forme d'écologie. Bon, après, à terme, c'est très bien, parce qu'on aura quand même des sols qui sont biologiques, mais toute l'éthique sociale, etc., elle a tendance à disparaître avec ces projets. Alors qu'à l'origine, le travail de l'agriculteur bio, c'était aussi de faire attention à comment il emploie ses gens. Enfin, il y avait une éthique du travail aussi. Enfin, il n'y avait pas que le côté agronomique des choses. C'était aussi un projet social, quoi.
au départ. Et maintenant, avec la grande distribution, bon, ben voilà, ils ont une trésorerie qui est autre que celle de la clé, ils ont d'autres moyens.
C'est sûr.
Ils communiquent, ben ouais, la publicité voyage à travers la Suisse sur le train, quoi. Ouais, la visibilité est vachement plus grande. Donc, ouais, ils sont malins.
Je suis passé en venant, là, je crois que c'est juste avant hiver, dont il y a une immense carrière Holcim, et puis ils ont mis une immense bâche, mais vraiment une immense bâche, qui dit « Votre partenaire local pour des constructions durables ».
Ouais.
Et tu te dis, les gars, ils ont peur de rien. Ils sont...
Ouais,
et sans déconner, la bâche, elle fait, je pense, 20 mètres de large sur 52 hauts, je sais pas. C'est sur une immense tour, comme ça.
Alors, ils avaient besoin de redorer leur blason.
Hein. Et c'est ça. Et tu te dis, on est en plein dans tous ces trucs, la ZAD du Mormon ou autre, les gars, ils vont creuser de la forêt pour faire du béton. Et ils se disent qu'ils sont éloquents et durables. On n'a pas forcément les mêmes
définitions. On n'a pas les mêmes valeurs aussi, quoi.
Et pas les mêmes moyens, parce qu'effectivement, vous n'avez pas les bâches de cette taille-là.
Nous, au niveau ultra local, on peut faire plein de choses, quoi. Mais ça reste ultra local, quoi. Donc, c'est la conférence de 20-30 km. Donc, le rayonnement, il est vraiment. On ne peut pas aller au-delà de ce rayonnement, en fait.
Mais c'est aussi c'est vrai ce que tu dis, c'est aussi on est quand même gentiment avec le bio en Suisse à une limite où l'offre commence à rattraper la demande. Ça, c'est vrai. Alors, c'est. Ouais, il faudrait que les gens continuent de manger plus bio, mais je pense qu'on maintenant l'offre va plus vite que l'année.
Et puis on va à nouveau reparler du coup du prix juste, parce que tous les prix vont à nouveau être tirés vers le bas et peut-être plus bas que ce qu'on connaît maintenant.
Après, il y a quand même aussi, puis ça je trouve c'est positif quand même, il y a tous ces magasins locaux qui ont ouvert dans plein de villages en bio, puis ils marchent bien. Donc les gens, ils viennent à la roulotte chez nous, ils viennent chez des collègues dans d'autres villages. Ouais. Peut-être que cet engouement continue de croître, mais les gens sont moins intéressés. En fait, ils sont intéressés à manger bio et local, mais pas forcément à participer, quoi.
Ouais.
Alors, voilà.
Ouais, ce côté du choix, en fait, les gens aiment avoir le choix. Effectivement, quand tu prends un panier, t'as pas le choix de ce qui compose ton panier, c'est saisonnier, donc il y aura ce qu'il faut au moment de la saison. Le choix, il est déterminé par les jardiniers, c'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on met cette semaine. Ouais. Donc nous, on essaie quand même de vachement diversifier en faisant attention justement à ce que ce soit pas récurrent, pas qu'il y ait de lassitude. Donc il y a quand même un énorme boulot derrière cette composition du panier pour aller dans le sens de nos coopérateurs et qui trouvent toujours une petite surprise, que ce soit un cadeau quoi, ce panier. Il ne faut pas que ce soit...
La lassitude de manger
du chou.
Non, mais c'est clair qu'il y a des mois qui sont un peu longs quand on n'est que sur un panier ou qu'on n'est que sur l'ultra local.
C'est pour ça qu'hiver...
Mars-avril et puis qu'on voit les courgettes espagnoles arriver, on se dit est-ce qu'on fait une exception ou pas, on tient, mais c'est vrai que c'est aussi une discipline personnelle après que les consommateurs, consommatrices doivent réavoir, parce qu'en fait il n'y a pas de limitation,
il n'y a personne pour te dire de ne pas la prendre,
c'est ça, puis elle est moins chère et puis elle a quand même le goût de la courgette quoi, et la tomate aussi,
et là on revient à l'éducation des gens en fin de compte, et puis même il y a beaucoup de gens en fin de compte qui ne savent pas comment ça pousse.
Ouais.
Donc à partir du moment où il y a du soleil, d'un coup ils se disent il y a des tomates.
C'est ça. Ça fait au moins deux semaines qu'il fait chaud, donc il doit y avoir des tomates.
Mais c'est pas tout de suite. Faut un peu de patience, quoi. Ouais. Et donc vu qu'on est dans une société de l'immédiat, nous producteurs, on n'est pas du tout dans l'immédiat. Nous, on est toujours dans l'attente.
Ouais.
Tu sèmes quelque chose, il faut attendre des semaines avant d'arriver à un résultat. Et ça, c'est peut-être mal compris dans cette société de l'immédiat. Ben, là, justement, nous, notre offre, elle ne peut pas être selon les envies, quoi. Donc ça, il faut qu'on leur apprenne. Et d'où l'importance des projets participatifs, ça fait bien comprendre ce qu'on fait, en fait. Les gens, ils viennent mettre les mains à la terre. Du coup, ils voient, il reste 8 heures, ils voient la pénibilité. Nous, peut-être qu'on la ressent moins, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, au bout de 8 heures,
ah ben, c'est sûr.
Il se dit, mais ils font un métier de dingue, quoi.
Ouais.
Alors que nous, on est habitués, donc nous...
Ah, moi, je travaille un jour par semaine sur la ferme. Le lendemain, ah, c'est pas le même. Tu dors bien, c'est sûr. C'est pas les mêmes journées.
Nous aussi, on dort bien. Tous les jours. Donc, ouais, moi, ce qui me plaît dans ces projets, c'est justement de faire découvrir notre métier. T'es moins seul parce que souvent, maintenant, l'agriculteur a la possibilité par la mécanisation d'être presque seul sur sa ferme. C'est assez horrible.
Ah bah c'est aussi, je pense, c'est entre autres pour ça que c'est un des métiers où il y a le plus haut taux de suicide en Suisse. Ouais, c'est aussi que c'est des gens qui sont extrêmement seuls et puis à faire un métier qui... Je pense pas que c'est de ça que tu rêvais quand t'étais petit, d'être toute seule, toute la journée, ton tracteur GPS à épandre ou des graines.
Bah
ou
non,
ou
on est des êtres sociaux.
Des pesticides ou de l'engrais.
On a besoin des autres, quoi.
Ouais. Et d'être dans autre chose. Et... on terminera peut-être là autour. C'est voilà, ça fait une heure qu'on discute, qu'on dit que c'est un métier qui est difficile, qui est pas bien payé, où les gens sont de moins en moins intéressants.
On a vachement le plaisir.
Mais c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait continuer à faire ça? C'est quoi le moteur derrière ça?
Moi, c'est le moteur, c'est la passion. En fait, j'ai fait de l'histoire de l'art.
Ok.
Je mangeais déjà bio dans les années 90 parce que j'étais un écolo convaincu, manifestant, etc. Et puis j'en ai marre de manifester. Il fallait que je transforme cette colère en autre chose, quoi. Et puis, du coup, je suis allé travailler chez le gars chez qui j'achetais mes fromages. Je lui ai dit, ouais, je peux venir une semaine. Et puis, comme tout paysan, tu demandes, t'as du travail? Il fait, ouais, viens, viens, tu peux venir demain, tu vois. Donc, je suis allé chez lui, puis je suis resté 8-9 mois, puis j'ai embrayé sur une formation en agriculture biodynamique. Et puis, c'est devenu ma passion. C'est ce qui fait qu'aussi, on peut travailler des heures et des heures sans se poser trop de questions, d'accepter, en fin de compte, d'être mal payé, parce que tu fais ça parce que c'est ton moteur, tout simplement, quoi. Et que... t'as vraiment l'impression d'aller dans le bon sens et de construire quelque chose pour l'avenir de la planète, quoi. En fin de compte, moi, c'était surtout ça, c'était comment préserver tout ça, quoi. Et donc, du coup, l'agriculture biologique, pour moi, c'était une évidence, en fin de compte, d'être dans le faire au quotidien. C'est une forme de manifestation plus tranquille, quoi. Plus jolie.
Ouais, bah, c'est un peu les mêmes motivations, c'est vrai. Je rajouterais peut-être le fait d'être en lien avec la nature tous les jours. Ça, c'est quand même une chance extraordinaire d'être tous les jours dehors. Même quand il pleut, même quand il fait froid, moi, je suis content d'être en lien avec les éléments, quoi. C'est vraiment un plaisir tous les jours.
Ouais.
Moi, il y avait de ça aussi, ouais. Ce sentiment de liberté, en fait.
Et ben, on espère que ça donnera envie à d'autres de profiter du plein air, de se sentir libre et de manifester de manière positive et passionnée pour le climat et pas juste en étant en colère dans la rue, mais aussi dans le faire quelque part et dans l'agir.
Et du coup, t'es plus en colère.
Ouais. Ne serait-ce que ça, c'est un joli bénéfice. Ouais. Merci beaucoup de faire tout ce que vous faites au quotidien et puis de m'avoir accordé ce temps pour le raconter à d'autres. J'espère que ça a été pour vous, que ce n'était pas trop traumatisant par rapport aux expériences de vidéo.
Avec plaisir.
Non, c'était vraiment bien plus sympa.
Excellent.
Je ne sais pas si on aura autant de plaisir à se réécouter, mais...
Ouais, vous n'êtes même pas obligé, il faut juste envoyer le lien à tous vos coopérateurs. Comme ça, il y aura 200 personnes qui recevront mon podcast. Merci beaucoup pour ce temps-là et puis à très bientôt.
À bientôt. Merci.
La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.